Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'émission Cinébrunch. Jim Boulay au micro et derrière la vitrine, prisonnier d'une cage de cristal, Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
Bonjour!
Allô!
Ça s'améliore chaque semaine.
J'ai peur. J'ai vraiment peur de ce que ça va être.
On verra bien. Je vous rappelle que cette émission est disponible en balado-diffusion sur iTunes ou directement sur notre site internet cinébrunch.com. Vous y trouverez d'ailleurs toutes les bandes annonces des films critiqués par vos trois animateurs préférés, Louis Laramé, Mélina Lopez-Nadeau et moi-même. D'ailleurs, Louis, encore un film de Matt Damon, c'est pas quand t'arrêtes.
Non, mais c'est un film de banlieue cette fois, fait que ça compte pas.
Ah, ok. On en parle dans quelques instants. Émilina, toi, de ton côté, t'es allé voir un film sur l'enfance du poète et chanteur Félix Leclerc lui-même.
Oui, est-ce que j'ai aimé ça ou pas? Vous le saurez tantôt.
Ok, on en parle dans quelques minutes. Et sinon, moi, de mon côté, je suis resté dans le domaine artistique avec La Passion de Van Gogh. Film entièrement peint à la main par une centaine d'artistes, je vous en parle dans une vingtaine de minutes. Et vous avez eu le temps de digérer vos bonbons d'Halloween? J'espère bien, parce que dans la deuxième demi-heure, on est allé dans le salé aujourd'hui. Vous savez, on a souvent des débats d'idées à Cinébrunch parce qu'on est trois âmes différentes, et moi je suis une vieille âme, là, personnellement.
Non.
Et depuis le début de la saison, on se rend compte qu'on ne s'entend pas sur c'est quoi un bon film, un film réussi. Alors on a eu l'idée de mettre nos principes à l'épreuve et d'organiser un grand débat sur les critères d'appréciation d'une œuvre cinématographique.
Ce que Jim ne raconte pas, c'est qu'à chaque fois qu'on va voir un film, lui et moi ensemble, on finit dehors de la maison du cinéma à s'ostiner sa rue, à avoir l'air de deux comme perdus.
Oui, effectivement.
C'est pour régler le débat une fois pour toutes.
Plaît-il. Aussi, vers la fin de l'émission, on vous propose notre quiz « Devine mon film d'action ». Et en attendant, arrêtez de vous essuyer sur les sièges quand vous mangez du popcorn au beurre. Prenez des napkins, c'est gratuit. Voici Cinébrunch. Louis, tu as vu Bienvenue à Suburbicon, un film dans lequel Matt Damon est plus magané que Stallone dans Rocky.
C'est une manière de décrire ça, j'avais pas vu ça comme ça. Suburbicon, c'est une comédie noire dirigée par Josh Clooney, écrite par les frères Coen. C'est Kerima Westbrook, Julianne Moore, Matt Damon et Oscar Isaac. Mais avant que j'aille trop loin, on va juste aller écouter un extrait de la bande-annonce.
Bienvenue à Suburbicon. Une ville où il fait bon vivre.
Bien le bonjour.
Une ville placée sous le signe de la prospérité.
Monsieur Lodge,
oui?
Vous connaissez un personnage du nom d'Orizzoli? C'est un usurier. Si vous deviez de l'argent à la mafia, ça expliquerait ce qui est arrivé à votre femme.
Salut, mon gars.
Oh!
C'est la dernière fois que ce clown se fiche de nous. Occupe-toi du gosse.
Wow.
Ça a l'air bon.
Ouais.
Oups.
Oui, parce que...
Oups! Sûr.
Je te fais ça rapidement. Ça, dans le fond, toute la bande-annonce, c'est l'histoire de Gardner Lodge, le personnage de Matt Damon, qui est un vendeur d'assurance. Sa femme, récemment accidentée, se fait tuer dans un cambriolage qui tourne mal.
Mm-hmm.
Puis là, c'est ça. Là, on voit comme l'espèce de descente aux enfers de Matt Damon qui doit gérer ses liens avec la mafia parce que tout ça est une espèce de complot, finalement, pour tuer sa femme. Profiter de l'argent des assurances et finir avec sa sœur jumelle qui, elle, n'est pas accidentée.
C'est tordu, là.
Ça, c'est
Matt Damon qui veut ça. Mais okay. ça, le trailer, puisqu'on vient d'entendre, la bande-annonce, c'était ça.
Okay.
C'était tout ça. Par contre, le film passe la moitié de son temps sur l'histoire la famille Mayers qui vient de s'installer dans le quartier de Suburbicon. Ce qu'elle a de spécial, la famille Mayers, c'est que c'est une famille de couleur. C'est un couple noir avec leurs deux enfants qui s'installe dans un quartier qui est blanc.
Okay.
Entièrement blanc. C'est supposé être inspiré d'un événement des années 50, qui est arrivé en 57, où une famille s'est faite intimider jusqu'à temps qu'ils déménagent alors qu'ils venaient d'arriver dans une banlieue entièrement blanche.
Okay.
C'est ça. Fait que ça, c'est le setup. Mais c'est que ces deux histoires-là, ensemble, dans un même film, fait que c'est un peu compliqué des fois de suivre parce que tu passes la moitié de ton temps sur une histoire, la moitié de ton temps... Ça se veut une espèce de lien ensemble où est-ce qu'une famille blanche est capable d'être une famille meurtrière, trash, vraiment dramatique, alors qu'une famille noire ne peut pas tout simplement exister à cause du regard de leurs voisins. Ouais, c'est ça. À ton regard, je vois que tu comprends pas plus que moi ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça.
Je vais commencer. Ce qui est bon dans ce film-là, moi j'ai adoré l'humour des frères Coen. J'étais un fan fini. Je veux dire, Fargo, le Big Lebowski et un paquet d'autres films.
Mais on le retrouve dans le film quand même, l'humour des frères Coen?
À certains moments. On okay. voit qu'il y a, tu sais, il y a certains moments de brillance où t'es comme là. Là, ça c'est un moment Coen.
Ok, ok.
Particulièrement la performance de Oscar Isaac, qui est un espèce de. D'inspecteur de la compagnie d'assurance qui vient voir, qui vient inspecter voir si c'est de la fraude. Et pendant cette comme demi-heure, ce 20 minutes-là, quand il est sur la scène, honnêtement, tu retrouves l'humour des Coen, tu retrouves l'espèce de liberté, puis sa performance est juste incroyable.
Okay.
C'est super bien tourné, c'est vraiment beau. On retrouve beaucoup les années 50, les grands panneaux de bois, les voitures. C'est à peu près ça que j'ai aimé.
Okay.
Parce que le film splitté en deux manque de focus. On perd son temps sur une histoire qui débouche jamais vraiment à rien. C'est-à-dire okay. que toute l'histoire de la famille Myers, autant ça pourrait être intéressant, puis j'aimerais vraiment, j'aurais aimé voir plus l'idée d'une famille comme ça qui se fait mettre dehors tout simplement parce qu'ils sont noirs. Puis là, on parle, ça va vraiment over the top. Ben, on passe pas assez de temps. Puis c'est un peu ça, en fait, le problème, c'est que l'histoire de Matt Damon est pas si bonne que ça.
Ah.
Parce que c'est banal, puis en même temps, c'est too much. Parce que là, soudainement, Matt Damon, c'est pas juste un d'autre qui veut tuer sa femme pour profiter de l'argent des assurances. Il fait aussi pour coucher avec sa sœur jumelle. Il fait aussi pour avoir des relations sexuelles tout croche qu'il pouvait pas avoir avec sa femme. Puis il fait aussi dans un contexte où ça dérange pas vraiment tuer son fils.
OK.
Fait que, déjà, juste un de ces trucs-là aurait été assez pour te faire un film au complet. Là, tout accumulé de même, ça perd de son impact. Fait que pendant ce temps-là, du côté de la famille Meyer, c'est la même chose. C'est pas juste que les voisins sont racistes, c'est que les voisins sont racistes, que l'épicerie leur surcharge tous leurs biens parce qu'ils veulent pas qu'ils soient là. C'est leur char qui se fait, en tout cas, tu sais, violenté. Ils se ramassent avec un drapeau de la Confédération installé dans une de leurs fenêtres. C'est tellement gros qu'au final, tu y crois plus. Il y a eu des moments drôles, puis je vais toujours adorer les frères Coen. Malheureusement, je vais être obligé de donner un 4 sur 10.
Oh. Ah ouais.
Ah oui, OK.
Ah oui, parce que ça vient long. T'as des moments... Tu sais, je suis sorti du film, j'ai quand même aimé certains moments, mais c'est juste parce que c'était beau. Parce que ultimement, à la fin du film, t'arrives, puis tu réalises qu'il y a rien de pertinent que t'as vu.
Ah, c'est décevant, ça.
Ouais.
Penses-tu que c'est George Clooney, le réalisateur, qui en est pour quelque chose, ou lui,
ben,
c'est bon?
Puis dans... George Clooney a fait d'autres films vraiment intéressants dans le passé. Là, The Monument Man était bon, mais c'est comme une espèce de... Je sais pas si c'est parce qu'il voulait être trop politique, trop proche des événements de Charlottesville qu'on a vu plus tôt en 2017. Okay, ouais. Je sais pas si c'est parce que l'espèce de lien entre les deux était trop dur à faire. C'était quand même ambitieux comme plan que de... faire comprendre ces deux trucs-là, c'est peut-être les performances, parce que c'est vrai que ni Matt Damon ni Johnny Moore vont shine vraiment dans ce film-là, il n'y a rien d'intéressant. Fait que c'est pas mal, c'est ça, il n'y a rien vraiment qui m'a semblé.
OK, fait que non.
Non. 4 sur 10.
4 sur 10, merci, merci Louis.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en...
Bon, Mélina, as-tu trouvé le petit bonheur dans Pieds nus dans l'aube?
Oui, je pense que ça l'a fait mon bonheur. En fait, tu me prends un peu au dépourvu avec cette question-là.
Bon.
Mais oui, ben, Félix Leclerc, bon, on s'entend que c'est déjà une personne historique au Québec, on veut dire, on s'entend. Donc, le film se devait d'être à la hauteur, surtout que le film a été réalisé par son fils, Francis Leclerc. Donc, il est déjà un réalisateur qui a été déjà connu. Donc, lui dit lui-même que c'était un projet qu'il voulait faire depuis 20 ans, mais il voulait pas se servir du nom de son père pour être reconnu. Donc, il a attendu, ce qui nous donne un film qui, je trouve, qui a une belle maturité. Aussi, qui a été chercher Fred Pellerin pour...
Ben oui, il a co-écrit, je pense.
Oui, exactement. Donc, pour aller chercher vraiment, je pense, dans les dialogues, tout ça. Et ça fonctionne. Il faut pas oublier que c'est un film qui est adapté d'un livre qui est paru en 1946 de Félix Leclerc. Et on a une belle brochette d'acteurs... dont Roy Dupuis, le beau Roy Dupuis. On a aussi Claude Legault, que j'ai même pas reconnu dans le film, mais bon, ça, on y reviendra. On a Catherine Sénard et nos deux jeunes, ils sont joués par Justin Lérolle-Bouchard et Julien Leclerc, qui n'est pas relié,
pas
à, la
relié
famille,
à la famille Leclerc.
Okay. Non, exactement. Donc, avant d'en parler plus, en fait, on va aller écouter un extrait de la bande-annonce.
And your name is?
Félix, madame. Félix Leclerc.
au Félix. J'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain.
Tu penses qu'il y a tout ce qu'il faut?
Non, pas inquiet pour lui. Il sait lire dans nos gestes, sa tête travaille sur tout ce qu'il voit.
T'as pas envie de ça, les voyages?
Ben non, c'est pas les voyages le problème. On est là tout seul, sans vous.
Tout un don. Le français, l'art, la musique. Tu sais pas vers quoi tu marches, mais t'avances.
Donc voilà, c'est le jeune Félix Leclerc, en fait, parce que dans le film, il est âgé de 12 ans. Ça se passe en 1927 à La Tuque, ville de sa naissance et de son enfance. Et c'est dans son dernier été, donc, avant de partir au collège à Ottawa. Donc, on le voit justement là, l'espèce de transition entre l'enfance et l'adolescence, une genre d'innocence qui part avec plusieurs péripéties qui arrivent au courant du film. On aborde aussi des thèmes que je trouve fantastiques, dont l'amitié, son amitié avec Fidor, qui est un jeune garçon qui vient d'une famille pauvre. Donc, on voit que Félix s'intéresse vraiment, commence à explorer des thèmes vraiment sociaux. Et on voit aussi le thème de la famille qui est très présent, que moi m'a beaucoup marqué, c'est la relation avec ses parents. Dans le sens qu'on est dans une famille québécoise qui semble très avant-gardiste, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, les enfants de 1 ont le droit de parler à la table, le dialogue est là, la mère est super affectueuse, et vraiment, il y a des
échanges.
C'est des
gens généreux, là. C'est des gens très généreux.
Oui, c'est des gens généreux, puis aussi, on voit dans la façon qu'ils élèvent leurs enfants qu'ils savent vraiment aller chercher, aller voir l'enfant, c'est quoi son potentiel, puis l'enligner dans cette direction-là. Donc, le frère de Félix, plus âgé, ils disent, ben lui, écoute, il est bon sur la terre, il est bon sur ça, donc c'est plus vers ça qu'il pousse. Félix, lui, voilà, il voit déjà qu'il est bon pour tout ce qui est culture, art, donc il va être vraiment envoyé dans cette... et encouragé à aller dans cette direction-là. Donc vraiment, c'est un beau modèle de parents, je dirais, là, de parents québécois. C'est vraiment, ce film-là, je vous dirais que c'est vraiment un hommage à la nature, parce que... on a des plans de montagnes, de rivières, ça respire, ça fait du bien à l'âme et au cœur. Et c'est aussi un hommage vraiment à la famille.
Et j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu des montagnes à La Tuque. Hein. C'est fou comment je connais pas ma géographie québécoise.
Ce qui n'est pas le cas de, clairement, Francis Leclerc, qui nous donne une photographie qui est, comme je vous disais, merveilleuse. Un jeu de couleurs aussi qui, je trouve, le rend vraiment... au niveau de l'ambiance sonore aussi, je trouvais que ça venait vraiment ajouter au film. C'était aussi fantastique. On croyait à l'histoire, il y avait une crédibilité. Puis il faut dire que pour le jeune acteur qui joue Félix, Justin, c'est sa première expérience.
Ah oui, c'est son premier gros film.
Exactement. Ah bon. Oui. Donc lui, il a été... Bon, alors on voit qu'il a déjà un naturel. Puis je trouvais que... au niveau de son regard, ses yeux, c'était excellent.
Mais c'est drôle, j'ai vu le film aussi... Et moi, je dirais pas que sa performance, à mon goût personnel, était extraordinaire, mais c'était bien, là. C'était bien quand même.
Exactement.
Tu voyais que ça manquait peut-être un peu de maturité, mais c'était quand même bon, effectivement.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a certains moments, mais c'était un jeu, je pense, qui était difficile aussi par moment. Il y a des événements assez, comment je dirais, qui sont un peu tragiques dans le film ou certaines choses qui provoquent vraiment une réaction émotionnelle. Autant pour moi, à un moment donné, je me cachais les yeux quasiment durant le film. Là. Oui, ben le moment avec le cheval, en tout cas. Oui.
Ah, il y a beaucoup de tension dans ce film-là. Oui. On pourrait pas penser ça d'un film de ce type-là, mais il y a du suspense quasiment dans ce film-là.
Il y a du suspense, oui, dans ce film-là. Donc, je vous dirais que pour ce film-là, moi, j'y donne un beau 8 sur 10. Je sais pas, James, si t'es d'accord avec moi.
Oui, tout à fait. Je donnerais 7.58 là, dans ce point-là. Oui, tout à fait.
Je trouve que c'est vraiment un bel hommage à un personnage québécois qui a vraiment marqué l'histoire.
C'est touchant. Oui, j'aurais pas peur de donner un 8 à ce film-là. Ouais.
C'est touchant. Ça donne envie aussi de lire le livre. Je sais que c'est différent du livre dans le sens que le livre explore vraiment une plus grande partie de l'histoire. Là, on a été ciblés. Mais je trouve que c'est franchement très bien réussi. Donc, je vous le recommande, Pieds nus dans l'aube de Francis Leclerc sur Félix Leclerc.
Merci.
Il s'est donné la mort.
Comment un homme peut se sentir apaisé et mettre fin à ses jours quelques semaines plus tard?
Les grands artistes, ce ne sont pas des âmes en paix.
Le voilà le prix de votre vérité. Est-ce que ça en vaut la peine?
A-t-il changé d'avis? Il avait peut-être envie de vivre, finalement.
Vous êtes si omnubilé par sa mort, mais que savez-vous de sa vie?
Et toi, t'as fait quoi pour Vincent?
Je voudrais montrer par mon travail
ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original.
Vous venez d'entendre la bande-annonce de La Passion de Van Gogh. C'est une production anglo-polonaise, le premier film d'animation fait à 100% de peinture à l'huile. 66 960 images peintes dans ce film. Une centaine d'artistes peintres ont participé à la production. C'est un travail absolument colossal. Et je vais vous raconter un peu l'histoire. Là. Ça se passe à la fin du 19e siècle, alors qu'on apprend le récent décès du peintre Vincent Van Gogh. Un postier et grand ami de l'artiste charge son fils Armand Roulin de se rendre à Paris pour remettre à Théodore, le frère du peintre, la lettre, en fait la dernière lettre qu'il lui a écrite avant de mourir. Il faut dire que Van Gogh a écrit plus de 900 lettres qui sont maintenant disponibles publiquement, même sur Internet, si vous voulez les lire, c'est assez intéressant. Parfois même, les lettres avaient des croquis de l'artiste, en tout cas. Donc, Armand Roulin, le fils du postier, se rend à Paris pour remettre la lettre au frère de Van Gogh. Il arrive là-bas, il pose des questions dans une boutique de peinture pour essayer de le trouver. Il apprend que Théodore est mort lui aussi. Son périple va finalement l'amener à Auvers-sur-Oise, le village où est mort Van Gogh. Et finalement, l'histoire qui commençait par un simple message postal se transforme et Roulin finit par s'intéresser vraiment aux circonstances de la mort de Van Gogh. Et on apprend ce qui s'est passé parce que c'est supposément un suicide, mais on finit par voir au cours du film que ça devient vraiment une enquête. Et on plonge dans le passé et surtout dans les dernières semaines de la vie du célèbre peintre par des témoignages de témoins, des proches de l'artiste. Et ça devient vraiment là, une sorte d'enquête finalement que va faire Armand Roulin. Lui-même va vivre des choses assez intenses dans le village et dans les environs, en suivant les traces du peintre. Il va aller dans l'auberge où il est décédé, il va même coucher dans la chambre où il est mort, comme pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, se mettre dans sa peau. Il faut comprendre que le personnage d'Armand Roulin n'avait pas tant d'intérêt dans cet artiste-là. Je dirais pas qu'il l'aimait pas, mais il n'était pas nécessairement d'accord avec ses agissements et ce qu'il faisait. Mais finalement, il finit par développer un intérêt pour le peintre. C'est vraiment très intéressant comme à part. Je veux juste essayer d'expliquer un peu le projet parce que ça m'a un peu fasciné de rechercher là-dessus. L'idée de ce film-là, en fond, c'est un projet très personnel de la réalisatrice Dorota Kobiela, qui est aussi peintre. Et après avoir lu les lettres de Vincent Van Gogh, elle a étudié ses œuvres et elle a eu envie de commencer, de faire un film fait avec, un film d'animation fait avec des œuvres de peinture à l'huile. Et tout ça a commencé par du sociofinancement sur une campagne de Kickstarter.
Ah oui?
Oui, c'est vraiment fascinant, avant de devenir éventuellement et actuellement un film international à grand déploiement.
C'est impressionnant quand même, parce que c'est très innovateur comme idée. Là.
Mais tout à fait, mais c'est surtout que c'est parti d'une idée comme ça, et c'est devenu, c'est incroyable la quantité de gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Avant de voir le film, je m'inquiétais un petit peu que l'effet peinture m'étourdisse. Là. J'en avais parlé même, je pense, à Louis. Comme les vieux dessins animés, des fois, quand les lignes sont toujours en mouvement. Mais non, absolument pas. Louis, tu avais tout à fait raison. C'est très bien fait. C'est pas étourdissant. L'effet est vraiment surprenant. On reconnaît tout au long du film le style au niveau de la peinture. On reconnaît les textures des œuvres de Van Gogh. C'est fidèle. Là.
Mais je sais que tu m'as dit que c'était entièrement peint à l'huile, mais je peux pas croire qu'il y a pas des effets digitaux qui sont utilisés justement. Pour adoucir les lignes.
Ben justement, c'est ça. Ben en fait, non, pas pour adoucir les lignes. C'est ça qui est merveilleux. En fait, j'ai fait des recherches pour savoir comment ils ont procédé pour faire le film. Ouais. Et le film a été en grande partie tourné avec des vrais acteurs sur écran bleu, qui sont les acteurs qui font les voix. Les acteurs ont été choisis pour leur ressemblance physiologique ou morphologique avec les personnages des toiles de Van Gogh. Donc, okay. Parce que tout est basé sur ce qu'il a dessiné, ce qu'il a écrit, c'est des vrais personnages, en fait, des vraies personnes qui sont mises sur les toiles de Van Gogh, qui sont utilisées dans le film. Et donc, c'est ça, on a tourné vraiment sur écran bleu pour avoir des mouvements naturels des personnages. Ensuite, on a superposé ça à des canevas, des croquis qui ont été dessinés, organisés un peu par ordinateur, mais après ça, chaque image, chaque frame a été peint par-dessus.
Donc, okay, c'est comme un effet rotoscope qu'ils ont fait, mais version à l'huile.
L'effet rotoscope est fait, mais la peinture est faite par-dessus. Donc, il n'y a pas de mouvement de peinture animé par ordinateur. Tout ça est fait à la main, frame par frame.
Okay.
Sauf que le croquis, le canevas avant a été... autrement dit, c'est comme si tu prenais une photo de toi devant un écran bleu qu'on superposait à un schéma, puis après ça, on donnait ça à l'artiste, l'artiste peint par-dessus ça. Il y a un vidéo documentaire qui explique comment ils ont procédé, là, un petit reportage, c'est intéressant, et on voit vraiment tous les artistes à l'œuvre un à côté de l'autre. Là, wow. C'est exceptionnel. Alors voilà, c'est surtout le concept du film qui est intéressant. Et Alors, on a une image vraiment, vraiment ressemblant au tableau de Van Gogh. Si vous faites Google Images avec Van Gogh, vous allez voir là, les images, là, c'est la même texture, la même. Ils ont pris des peintres qui étaient capables d'avoir le style de Van Gogh. Ça marche tout à fait. Et dans les flashbacks, cette fois-là, par contre, on a droit à un style de peinture qui est en noir et blanc, mais beaucoup plus lisse, presque photographique. Là, c'est de toute beauté. Donc, c'est ça. Alors, si ça vous intéresse, si l'art vous intéresse, en fait, si vous intéressez à Vincent Van Gogh ou si vous êtes simplement curieux, si vous appréciez les belles couleurs, allez définitivement voir ce film-là. Et sachez aussi que l'histoire elle-même est prenante. Là. C'est pas juste... Tu vas pas juste voir ça parce que c'est beau puis c'est artistique. Tu vas voir ça parce que c'est l'histoire est prenante. Il y a un suspense dans ce film-là. On finit par avoir envie de savoir et on découvre en même temps que le personnage principal ce qui va se passer. C'est franchement très bon. Je donnerais un généreux 8.5 sur 10 à ce film-là. Et allez voir ça, je recommande fortement et ça passe très vite.
Ooh.
Merci, Jim. Merci, c'est fort intéressant.
Louis, devant quoi mangerons-nous notre popcorn dans les prochains jours, semaines et siècles?
On va être pas mal occupé, en fait, parce que c'est le mois de novembre qui commence. Puis le mois de novembre, c'est toujours là que commence ce qu'ils appellent les Oscar bait, les films qui sont destinés aux Oscars. On va commencer par, à partir de la semaine prochaine, on va avoir la chance de voir Nous sommes les autres, qui est un film québécois réalisé par Jean-François Asselin,
oui.
Bertrand Dantôte, Émile Proulx-Cloutier, Pascal Bussière, James Hindman, Valérie Blais, ainsi que Jean-Michel Anctil. Mm-hmm. Un homme disparaît soudainement, la nature ayant horreur du vide. Les trois héros voudront transformer leur vie pour remplacer cette place vacante.
Puis juste dire, c'est la même gang de derrière ça que derrière Plan B, la série que je vous avais parlé, que j'ai adoré.
Que t'as un peu trop adoré à ce point-ci. Mais pour ce qui est des films qui vont chercher des Oscars, on a aussi La mise à mort du cerf sacré, la version française de Killing of a Sacred Deer, qui a déjà gagné, qui est en nomination pour la Palme d'Or à Cannes, qui a déjà gagné le meilleur scénario à Cannes. Steven, un chirurgien charismatique, est forcé de faire un sacrifice impossible alors que sa vie s'écroule quand le comportement d'un jeune garçon qui l'a pris sous son aile devient sinistre. Drame horreur dirigé par Yorgos Lanthimos, connu entre autres pour Le Homard, c'est tourné avec Colin Farrell et Nicole Kidman.
On va-tu dans le même genre que le problème d'infiltration?
Colin Farrell, après avoir lu le scénario, dit qu'il s'est senti physiquement mal. Genre, okay. Mais si t'as vu Le Homard, tu comprends. Oui. Même genre de problème. On a aussi le film français Robert Doisneau, Le Révolté du Merveilleux, qui est une biographie d'un célèbre photographe Robert Doisneau. On y voit son parcours, ses amitiés, ses idéaux. Je sais qu'ils vont chercher des témoignages de ses amis, de ses enfants. Ça a l'air quand même cute comme film biographique. On a ici aussi L'Étoile de Noël, la version française de The Star, qui est un film d'animation américain. C'est pas Pixar ni Disney. Fait qu'on s'en fout un peu. On suit la nativité vécue par des animaux anthropomorphiques. Ça a l'air très, très kitsch Noël chrétien cute. parlant de kitsch cute, on a aussi Le Retour de Papa 2, Daddy's Home 2, une comédie avec Will Ferrell, Mel Gibson, Mark Wahlberg, ainsi que John Cena, ce qui moi me fait quand même l'effet, parce que John Cena est un lutteur qui a beaucoup de succès en ligne. C'est l'histoire de meilleurs amis qui rencontrent le père l'un de l'autre pour Noël. Les deux pères s'entendent pas bien parce qu'il y en a un des deux qui est un redneck, l'autre qui est un espèce de socialiste new-yorkais. Ça va être une comédie de Noël, là, je pense.
La première, le 1, est sur Netflix.
C'est bien possible.
Avis aux intéressés.
Par contre, dans les choses vraiment intéressantes qui s'en viennent, il y a Le Crime de l'Orient Express, la version française de Murder on the Orient Express, dirigée par Kenneth Branagh, qui joue également le rôle du protagoniste, l'inspecteur extraordinaire belge Hercule Poirot.
Mais malheureusement, j'ai regardé la bande-annonce, puis je m'ennuie de David Suchet.
Ça a l'air tellement bon. Moi, j'ai vu la bande-annonce et je me suis excité le poil.
Mais il n'y a pas la bonne couleur de cheveux, de toute façon.
Oh, mais ça, c'est tellement... C'est tellement un détail. Apparemment, d'ailleurs... Branagh, c'est le directeur derrière Thor 1, mais c'est aussi le comédien derrière Gilles de Roy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.
Ah bon?
J'avais pas reconnu.
Dans ce classique d'Agatha Christie, il est accompagné sur scène par Daisy Ridley, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz et Judi Dench. Moi, je m'en excite le poil beaucoup de voir ce film-là. Mais celui que je vais très probablement aller voir, c'est un très clair Oscar bait. Non, tard, c'est cette semaine.
Ah oui.
La semaine prochaine, c'est Three Billboards Outside Ebbing, oui. Missouri.
Oui.
Comédie d'horreur mettant en vedette Frances McDormand et Woody Harrelson. C'est l'histoire d'une femme dont la fille est brutalement tuée et violée. Et on ne retrouve pas le criminel qui a commis l'acte. Déçu des résultats de l'enquête, la mère décide de mettre 3 panneaux publicitaires à l'entrée de la ville pour accuser le chef de police de ne pas faire sa job.
Oui.
Puis là, c'est Martin McDonagh qui fait ça. C'est le même type qui nous a offert Bienvenue à Bruges, une comédie noire suivant 2 tueurs à Bruges. C'est aussi lui qui nous a donné Les Psychopathes, une comédie noire qui suit 7 meurtriers. Mais c'est un type que j'aime beaucoup. J'ai adoré tous ses films. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hâte de voir.
Mais la bande-annonce a l'air quelque chose.
Ah mon Dieu.
Ça a l'air quelque chose.
D'ailleurs, pour ce qui est du titre, il n'y a pas de version québécoise encore de prévu. C'est donc pour ça que vous avez le titre anglophone.
C'est tout.
Bon cinéma.
Bon popcorn.
Non.
Merci Louis. De retour à Cinébrunch. On est 3, on est jeunes, on n'est pas d'accord sur c'est quoi un bon film ou un mauvais film. Alors on va en débattre pour le plus grand plaisir de vos oreilles. On avait prévu un quiz dans lequel Louis vantrait l'extraordinaire sensibilité de Steven Seagal et Mélina d'Hermione dans Harry Potter, mais on a choisi de remplacer ce quiz par une table ronde sur l'appréciation d'un bon film.
On peut-tu faire une table ronde sur l'élimination de l'animateur?
On en parlera en CA.
OK.
Tant qu'à pas être d'accord, et comme pour un vrai débat politique, j'ai amené des dés et un contenant de plastique, à la demande de Louis, pour départager qui aura le mot du début. Quand on y aura tous passé, nous débattrons. Allez-y, chers collègues, brassez vos dés.
5.
2.
6.
Bon, c'est Jim qui commence.
Donc, c'est moi qui commence. On a chacun notre tour, 1 minute pour dire c'est quoi un bon film. Alors, selon moi, un film, c'est un peu comme un voyage. Dans le monde, dans l'univers étendu, dans la vie d'un personnage, dans le rêve ou la pensée d'une personne, que l'histoire soit vraie ou pas, soit réaliste ou pas, c'est pas grave. Tant que le genre cinématographique le permet, bien sûr. Donc, c'est ça, c'est comment je vois un film, comme un voyage. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon film? Un bon film, c'est quand je suis collé à ma chaise, quand je suis captivé par ce qui se passe, quand je suis captivé par ce que le personnage vit, par la beauté du paysage, des mouvements, par la surprise ou la tension que va créer l'histoire, peu importe comment, c'est l'immersion. Et c'est mon terme, l'immersion qui fait un film réussi selon moi, l'immersion dans ce voyage-là. Et pour moi, ce qui fait un mauvais film, c'est précisément quand je sors de l'immersion à cause d'un événement douteux, scénaristiquement pauvre, ou si je ne comprends pas les actions d'un personnage. Si on m'explique mal ce qui se passe et que j'ai l'impression qu'on a tourné les coins ronds, si la musique marche pas avec le récit, autrement dit, si on brise mon immersion, c'est des points qui descendent très vite ma note, parce que si je commence à penser et à remettre en question des choix ou le scénario dans le film, je suis plus dans le film, donc je suis plus dans l'immersion, et ça, c'est la faute du film.
Ouais, mais je sais pas qui suis pour cela, mais écoute, je comprends ce que tu dis au niveau d'immersion, mais je pense que c'est tellement une part minime de ce que devrait faire un bon film, parce que on a connu des films qui étaient d'une immersion sans pareil, qui étaient pourtant pas écoutables, ou même des films qui, parfois, prennent des libertés sur ce que c'est que la réalité. Moi, je pense... Une de mes séries de films favorites à ce jour, c'est la série Rapide et dangereux. Rapide et dangereux brise toutes les lois de l'immersion que Jim vient de poser. Rapide et dangereux fonctionne dans un univers qui lui est propre. Personne meurt à partir du moment où tu embarques d'un char ou que tu t'appelles Toledo. Mais ça marche parce que ces films-là te font vivre des émotions. Du début à la fin, t'es rivé à ta chaise parce que tu veux vivre l'action des personnages, tu vis par proxy leur vie ou t'apprécies directement ou indirectement l'adrénaline qui te monte dans les veines, le sentiment d'attachement que t'as avec ces personnages-là, ou tout simplement l'espèce de charme, la testostérone qui vient avec le film. Moi, je pense qu'un bon film, c'est un film qui te fait vivre des émotions.
Donc, Jim, immersion, Louis, les émotions. Moi, j'y vais avec la cohérence. Et qu'est-ce que je veux dire par la cohérence? Pour moi, la cohérence de la psychologie des personnages. Si tu me présentes un personnage qui a une telle psychologie... Quel comportement? Je m'attends à ce que ses actions soient cohérentes avec sa personnalité. Je m'attends à ce que les relations entre les gens dans le film, entre les différents protagonistes, soient cohérentes. même si, bon, voilà, vraiment, la cohérence dans l'histoire aussi. Je veux dire, même si c'est fantastique, il y a une certaine cohérence qui doit être là, une certaine cohérence dans la personnalité, les actions des personnages. Si on m'enlève cette cohérence-là de la psychologie des personnages, du groupe, des relations, des réactions, tout ça, moi, ça fait que je débarque du film parce que si c'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas pour moi.
Je trouve que vos deux perceptions sont quand même limitées, parce que autant la cohérence que l'immersion me semble comme étant juste des aspects stylistiques ou des choix directorial.
Ah, mais non, je trouve pas.
Parce que, ouais, non, je pense que ça m'indique pas est-ce qu'un film va être pertinent, est-ce qu'un film va être puissant, est-ce que. Je pense à Dunkirk qu'on a vu plus tôt cet été, ouais. Qui, au niveau de la cohérence, avait rien pour lui parce que les personnages étaient à peine explorés. C'était vraiment un film où c'était les images, où c'était les espèces de moments puissants, mais il n'y avait pas plus d'immersion parce que au niveau temporel, c'était tellement mélangeant qu'on en finissait par pas vraiment être capable de voir où est-ce que les personnages arrêtaient, où est-ce que les histoires commençaient. Fait que moi, au contraire, je pense que c'était un excellent film parce que du début à la fin...
Ben moi, j'étais en immersion totale en ce film-là. Je comprends pas que t'aies pas trouvé ça, mais moi, dans Kirk, j'ai été assis sur ma chaise, les yeux m'ont pas cligné du film au complet. Là.
Oui, parce que c'est un film qui est puissant. Ben parce que c'est un film qui te fait vivre des émotions du début à la fin, mais au niveau de la cohérence, au niveau de l'immersion, c'est planté parce que les timelines font aucun sens.
Moi, je trouvais que c'est un film de survie, on suit le personnage, on comprend ce qu'il vit, on comprend ce qu'il essaye de faire, c'est cohérent à ce niveau-là, puis c'est immersif parce que justement, on s'imagine vivre ce que le personnage fait parce qu'on n'aurait pas réagi différemment.
Lequel des personnages?
Le français qui se fait passer pour
celui qu'on vit son histoire pendant une heure, celui qu'on vit pendant une journée ou celui qu'on vit pendant une semaine?
Ben moi, je parle de celui qui était dans le bateau. Là.
Ah, OK.
Mais celui de l'aviation aussi, c'est juste que lui, on comprend un petit peu moins ce qui se passe parce que je trouve que ça a été moins apporté. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça très immersif. Mais c'est ça, peut-être qu'on s'entend pas sur les termes aussi, mais je sais pas, Milena...
Moi, j'ai pas vu Dunkirk, fait que je peux pas vous donner mon opinion par rapport à si c'était cohérent ou pas, là, à ce niveau-là.
Mais ça veut pas dire cohérence et compréhension, ça veut pas ensemble. Moi, je pense que on peut ne pas comprendre un film et que ce soit un bon film.
Mm-hmm.
Je pense
que ah oui?
Mon film préféré, c'est Cloud Atlas. Je l'ai vu trois fois avant de le comprendre.
Je veux qu'on prenne cette phrase-là sur « Je pense qu'on ne peut pas comprendre un film, mais quand même l'apprécier. » Alors que vous m'avez descendu communément, d'un commun accord quand est venu le temps d'écouter Un problème d'infiltration, parce que j'étais le seul à vouloir avoir compris quelque chose de ce film-là, puis avoir accepté qu'il me faisait vivre des émotions au-delà de l'histoire.
Oui, mais c'est ça, faut que tu fasses attention, Louis. C'est pas grave qu'un film soit difficile à comprendre, qu'il y ait une fin ouverte. Ce qui est grave, c'est si on a l'impression que c'est botché ou que ça a été mal amené. C'est ça qui est grave. Je veux dire, si on a l'impression que... la personne qui a fait le film, c'est pas pantoute où ça s'en va elle-même. C'est pas la même chose que si la fin est d'une grande complexité et d'une grande profondeur. Là, je veux dire, c'est une œuvre d'art, je suis d'accord qu'on peut la regarder, trois personnes différentes, voir quelque chose de différent. Mm-hmm. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, je le respecte. Sauf que, à un moment donné, il y a des films qui nous la jouent un peu facile, mettons, avec des fins. C'est un peu facile de finir ça d'une façon inexplicable, inexpliquée, sans trop vraiment amener juste des couleurs, des images, des symboles. Moi, ça, je débarque en général.
Au contraire, je trouve que c'est une des fins les plus difficiles à justifier parce que tu forces tes personnages pour que ce soit justifiable ou pour que ça puisse arriver, c'est qu'il y a dû avoir un build-up pour que tu puisses comprendre à ce moment-là. Puis je pense que le problème d'infiltration finit de manière telle parce que, au contraire, moi je comprenais entièrement le processus psychologique, la cohérence du personnage, puis le comment est-ce qu'on s'était rendu là, mais je pense que c'était pas ça l'important. Je pense que concrètement, l'important c'est que la fin ou même que tout le film. J'étais rifté par ma chaise parce que je me sentais mal, je me sentais coupable, je me sentais agressé par le film. Puis je suis ressorti du film changé ou je suis ressorti du film affecté par ce que j'ai vu à l'écran.
Ben moi, d'accord. Moi, je trouve que c'est facile de faire vivre quelque chose de difficile à un personnage tout le film, puis à la fin, de mettre des sous-entendus abstraits, puis de dire « Ah, la fin veut dire... » telle affaire.
Sous-entendu abstrait.
Ben là, le feu de foyer, puis l'eau dans le... Tu sais, je veux dire, c'est correct, là, je comprends ce qu'on essayait de faire, mais je trouvais que c'était... c'est ça, c'est du symbolisme. Mais moi, le symbolisme au cinéma, j'ai bien de la misère avec ça. Je préfère vraiment quand l'histoire en elle-même, la construction de l'histoire me donne une réponse.
Bref, faut que tu sois pris par la main pour apprécier un film.
Bon, c'est ton avis. C'est ton avis, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. L'autre affaire, c'est que on a été voir récemment le film de zombies, là. J'ai oublié.
Les Affamés.
Les Affamés, c'est ça. Et tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est que la priorité pour moi, il faut que je m'attache au personnage. Il faut que je comprenne ce que le personnage ressent. Pourquoi il agit comme ça? Il faut que ça ait un sens.
Si tu veux, hein, comprendre la psychologie d'un personnage puis vraiment voir au plus profond de l'âme d'un personnage fictif, je veux dire, lire un roman, parce que c'est là que tu vas vraiment pouvoir prendre le temps. Un film, nécessairement, est contraint à 3 heures max pour te faire vivre les émotions. Pour te mettre en contexte, te faire vivre une intrigue, te faire croire à l'histoire, te mettre les personnages en bouche, te faire attacher au personnage, puis le tout contraint dans 3, même souvent 2 heures. C'est pas là l'importance. Oui, mais la plupart du temps, ils vont prendre des raccourcis, ils vont travailler avec ça. Si tu veux, moi, quand je veux voir la psychologie d'un personnage de fond en comble, je vais lire un roman.
Mais je suis d'accord avec toi, Louis. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour les séries télévisées et non les films, parce que justement, on a beaucoup plus de temps de rentrer dans ça. Mais je pense que ce que pour moi, je veux pas perdre de vue, c'est que autant le cinéma, les livres, les romans, les séries télé, tout ça, c'est qu'on raconte une histoire. C'est comme on est assis autour d'un feu de camp, puis il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Pour moi, faut que j'arrive à comprendre cette histoire-là, ou même si ça finit que je suis pas sûre de comprendre la fin, je comprends l'univers. Au moins, j'en ai sorti, je suis sortie de là avec quelque chose, avec, comme tu dis, avec des émotions, avec quelque chose qui va me rester, qui va me tourner dans la tête par rapport à cette histoire-là qu'on me raconte. Puis c'est ça que je trouve que des fois, certains films échouent à faire, échouent vraiment à raconter une histoire, selon moi.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Puis tu sais, je veux dire, Louis dit on n'a pas le temps dans 2-3 heures de tout mettre pour les personnages. C'est tout à fait vrai. C'est normal qu'il y ait des trous dans un film. C'est normal qu'il y ait des ellipses. C'est normal qu'on fait passer du temps, parce que c'est pas possible de mettre un livre directement en film. Ça prendrait des heures. Ça prend des heures à le lire, ça prendrait des heures à le voir.
Oui. Voir ici la version longue du Seigneur des Anneaux.
C'est ça.
C'est que c'est le défi de taille du cinéma, c'est d'arriver à raconter une histoire en si peu de temps et d'avoir tous les éléments qui font en sorte que l'histoire est bonne.
Oui, mais
c'est ça le défi.
Tout à fait, mais que les éléments soient là, c'est bien. Qu'il y ait des éléments qui vont à l'encontre de cette logique-là de compréhension des personnages, c'est là qu'il y a un problème.
Non, c'est parce que tu fais pas assez confiance au directeur.
Ah non, non.
C'est que tu laisses
j'ai aucune confiance.
Tu laisses pas le directeur t'embarquer dans son univers, t'acceptes pas. Quand tu rentres, dans ma compréhension de la chose, quand tu rentres dans une salle de cinéma ou quand tu pars un film, tu signes un contrat avec le directeur, la directrice, tu dis « Pendant les 3 prochaines heures, je suis dans ton univers.
Mm-hmm. »
Puis je vais préférer de loin un univers qui est complètement explosé, qui est complètement séparé de la réalité, mais qui est cohérent de manière interne, versus quelque chose qui se base sur la réalité ou un univers que je peux connaître, mais qui est incohérent avec lui-même. Et on parlait de Rapide et Dangereux. Rapide et Dangereux est toujours cohérent avec lui-même. Tu rentres dans un char, tu peux pas mourir. Tu fais partie de la famille, tu peux pas mourir, à moins que ton acteur meure. Mais même les affamés qu'on a vus ensemble. Ouais.
Parlons-en
des affamés qu'on a vus ensemble.
Ben oui.
Les affamés, toi, tu critiquais des moments où est-ce que y avait des trucs qui apparaissaient puis qui étaient incompréhensibles. Mais concrètement, ces actions-là m'ont pas dérangé. Parce que pour moi, c'était cohérent au niveau interne. Il y avait rien dans l'histoire qui me disait ça peut pas arriver.
Moi, je trouve ça naïf de donner un chèque en blanc au réalisateur. Je veux dire, je m'excuse, là, mais pour moi, quand tu m'en passes des petites vites cheap, là, je le remarque puis ça me déçoit, puis je note mon film en fonction de ça. Dans le fameux film Les Affamés, à un moment donné, la fille est à côté de la roulotte, elle a envie d'uriner. Elle s'en va faire ça à 100 pieds de la vanne, à côté du bois. Elle sait qu'il y a des zombies partout. C'est évident. La musique nous amène à ça. On sait qu'elle va se faire surprendre par un zombie, qu'il va se passer de quoi de grave. C'est trop facile. C'est trop cheap.
Mais non, c'est pas trop facile.
Personne va faire ça.
Étant
en danger de mort, elle va aller faire ça à côté de la vanne. Mm-hmm. Elle fera pas ça dans le bout du bois tout seul. Voyons donc.
Je suis d'accord avec toi, Jim. Mais je l'ai pas vu. Puis malheureusement, Jim Louis, on va devoir s'arrêter là-dessus. Oh. Peut-être revenir sur ce sujet parce que je sens que la discussion est loin d'être terminée.
Il y aura peut-être une suite à cette
table-là. Il y aura peut-être une suite, voilà.
Enfin, bref, mais c'est bien intéressant tout ça.
Fort intéressant, voilà.
Aujourd'hui, on joue à notre quiz Devine mon film et on a choisi le thème des films d'action pour faire plaisir à Louis et pour nous simplifier la vie.
Ben là!
Le jeu est simple. Vous entendrez un extrait de quelques secondes d'un film d'action. Il faudra deviner parmi les trois choix de réponse, ou quatre, en fait, les quatre choix de réponse, de quel film il s'agit. Chacun d'entre nous a préparé un extrait que seul lui-même a entendu. Avant de commencer, on teste les buzzers. Louis Laramé. Mélina. Et moi-même.
Chance qu'on l'a testé.
Il marche pas bien, mais...
Ben, il a pas au choix.
N'est-ce pas? Alors, attention. J'ouvre la marche avec l'extrait suivant.
Qu'est-ce que tu fais?
Je tire sur l'otage.
Quoi?
S'il peut plus avancer, il l'abandonnera derrière lui.
Il y a un flic très en colère qui s'apprête à te trouer la peau. Qu'est-ce que tu fais? Réponds, qu'est-ce que tu fais?
Alors, vous avez entendu mon extrait secret. Et maintenant, vous devrez... En fait, avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un a une idée de quel film il s'agit?
Nope.
Non plus.
Bon, merveilleux. Alors, vous avez le choix. Devine mon film d'action parmi les choix suivants. Le Rocher, Clanche, Cuirassé en péril ou Skyfall? Louis!
La Roche?
Le Rocher, non! On doit de réplique, Amélina.
Skyfall?
Non.
Non! OK.
Je savais que c'est pas ce qu'il fallait.
Alors, vous avez droit à un indice supplémentaire.
Oui.
Alors, premier indice, l'action se passe dans les années 90.
Clanche.
Oui! Mais t'as pas pesé sur le buzzer, ben ça compte pas.
Non, c'est ça, ça compte.
Ah non!
Louis!
C'est Clanche!
Oui!
Sacré Louis, sacré Louis.
Et calme-toi.
Aïe, 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 c'est
incroyable. On y croit, on y croit.
Incroyable. Est-ce que...
Un point pour Louis qui
un point
voler.
Pour Louis. Ben là, c'est un autre sur le buzzer. Hein? Moi, j'ai pas de...
Non, mais c'est ça.
Je suis prête maintenant.
Okay.
Excellent. Alors, attention, un peu de discipline quand même.
Non.
Alors, c'est le moment de l'extrait de... Ben, fait, Louis a gagné, donc ça va être le moment de faire ton extrait. Alors,
excellent.
On écoute l'extrait de Louis.
De toute façon, j'ai plus grand-chose à perdre.
Oh, il y a beaucoup à perdre. Ça, je vous le garantis.
Valentine est une menace qui nous affecte tous.
Un génocide de masse?
Ça, j'adore.
Vous êtes complètement cinglés.
Ça, j'en ai rien à foutre.
Eh bien, Louis?
Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que c'est?
Ça me dit vaguement quelque chose. C'est ça le pire. Quels sont les choix?
Choix A, James Bond, GoldenEye. B, James Bond, Le Monde n'est pas assez. Choix C, Kingsman, Service secret. Ou D, triple X.
J'ai tellement aucune idée.
Oh, Jim?
Est-ce que ça pourrait être Kingsman?
Oui! Oh! Bonne réponse!
Oh, bravo, Jim.
Mais c'est un peu facile parce que les deux premiers films sont un peu trop sérieux pour ce genre d'extrait.
J'avais écrit un synopsis, si personne ne trouvait, qui était un ancien soldat britannique vit des problèmes à la maison depuis la fin de son service. Un ami de son père l'aide à canaliser sa colère dans les vêtements sur mesure. Je suis comme déçu que tu l'as trouvé.
Ah, mais là,
je l'aurais
trouvé aussi avec l'extra. Avec
oui,
le...
mais quand même.
Non, mais j'ai trouvé à cause du style. On était loin quand même de GoldenEye, on s'entend, là.
Ça aurait pu. Valentine, en fait, est un personnage.
Ah.
Est un des... C'est pour ça que j'avais
choisi.
Oui,
ok.
Spécifiquement, c'est. Il est dans GoldenEye et il revient dans Le Monde n'est pas assez.
Donc là, la personne qui va gagner pour mon extrait à moi va gagner le quiz vu que j'ai zéro point.
Absolument. Yes. Donc, point de match. Attention, match. Mélina, c'est le moment de ton extrait.
Mon unique super pouvoir, c'était d'être invisible pour les filles. Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoir pour être un super héros.
Laissez-le tranquille, pas tes affaires.
Oh que si. Hé, y a un mec déguisé en super héros qui se bat avec une bande de gars.
GoldenEye, non c'est pas vrai.
Avez-vous une idée?
Spider-Man.
Non.
Oh shit.
Oh, Louis s'est fait avoir son c'est la voix à peu c'est près hein, la voix
ben
ressemble
moi, c'est,
oui,
c'est le il y a un type d'exemple super-héros qui m'est correct, je vais attendre les choix de réponse.
Choix de réponse.
Oui.
Numéro 1, Les Incroyables. Numéro 2, Super. Numéro 3, Kick-Ass et numéro 4, Deadpool.
Deadpool.
Non, définitivement
non.
Pas.
Non.
Non, non, ben non, c'est pas, son super pouvoir n'est pas de invisible pour les filles.
Mais non, c'est vrai. Mais je pensais que, mais t'sais, il est un peu tombeur.
Ben justement, il est bon invisible pour les filles.
Ah ben oui. Je trouvais que c'était vraiment facile, mais je suis contente.
Ah ben là, c'est difficile. Là, peut... On peut... réplique à Louis.
Non, j'ai pas de. Ben. Kick-Ass?
Oui!
Excellent, c'est ça.
Voilà.
Je savais que c'était un loser qui devenait un super héros par la force des choses.
Mm-hmm.
Incroyable.
Incroyable.
Bon, mais Louis...
C'est la fin de cette joute! Incroyable! J'espère qu'à la maison, vous l'avez trouvé aussi, parce que c'était pas si facile que ça, hein, quand même. Ouais. Mélina nous a donné du fil à retordre dans ce match. Incroyable.
Clairement, clairement. Mais Louis, grand gagnant de ce jeu.
Je pense que je vais faire un tour du bloc victorieux.
Tout à fait.
On va me retrouver sur la Wellington, c'est ça, avec du champagne.
Il est en train de faire des signes et des autographes.
C'est quelque chose comme ça.
C'est merveilleux. Excellent, ben voilà, on sait, c'est le fun ce petit concept-là, on va refaire ça.
Dites-le nous sur Facebook si vous avez aimé ça.
C'est le moment des sorties Blu-ray DVD. Si vous n'avez pas été voir The Dark Tower, la tour sombre, adaptée d'une histoire de Stephen King parce que le film était horriblement coté, sachez qu'il est disponible en DVD Blu-ray depuis la semaine passée. Sinon, pour cette semaine, Les Bagnoles 3, pour les enfants dont les parents ont inculqué malgré eux une passion sur les chars qui ferait réjouir certains lobbyistes qu'on ne nommera pas, Flash McQueen est de retour pour affronter son adversaire Jackson Storm. Sa mécanique tiendra-t-elle la route? Ce Disney Pixar sera pavé la voie à toute une ribambelle de métiers de l'industrie automobile qui se porte à merveille depuis quelques années. Voilà. Sinon, Ingrid Goes West. Une jeune Française décide de déménager à Montréal pour apprendre le métier du cinéma et participe à une web-série sur la cohabitation difficile avec un chien avant de travailler dans une boîte de production sur le plateau et d'inviter ses amis français à faire le tour du lac Saint-Jean.
Est-ce que c'est un vrai film?
Non, c'est une blague. En fait, Ingrid Goes West, c'est une femme tourmentée qui rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux et décide de rencontrer l'individu dans le monde réel et ça vire très mal.
Ah!
Pam, pam!
Cela étant dit, la web-série avec le chien, ça me semble fort intéressant. C'est quoi le nom?
Je ne sais point. Le Château de Verre, pour terminer, un drame biographique sur l'écrivaine et journaliste américaine Janet Walls, et c'est disponible cette semaine.
Super.
Émilina, est-ce qu'il y a du nouveau sur Netflix?
Ben écoutez, Netflix, pas beaucoup. Il y a deux films qui sortent qui m'ont semblé assez intéressants. Le premier, ça s'appelle The Diner, c'est un drame thriller avec Richard Gere, et c'est... Lors d'un dîner, deux couples décident quoi faire à propos d'un crime que leurs enfants ont commis. Donc, ça a l'air franchement très bon. Et le deuxième film que je voulais vous parler, c'est en fait un documentaire qui s'appelle It's Not Yet Dark. J'ai pas trouvé le nom en français. Et c'est un documentaire à propos d'un jeune réalisateur, c'est une histoire vraie, qui a la sclérose latérale amyotrophique, voilà, et qui dirige son premier long métrage avec ses yeux. Donc c'était un scénario qu'il avait commencé à écrire avant d'avoir le diagnostic et il a terminé ça justement là, avec l'appareil qui permet de choisir avec tes yeux les mots là.
Oui. Oh mon dieu, c'était tellement terrible ça. Oui. C'est tellement terrible.
Dans mon temps, il n'y avait pas ça, des affaires pour que le monde puisse dire des choses avec leurs yeux.
Non, mais c'est tellement difficile, en fait.
Ça a l'air franchement très touchant parce que, je veux dire, déjà diriger, scénariser un film, c'est pas chose facile de le faire avec ses yeux.
C'est incroyable quand même.
C'est assez incroyable, voilà. Ça semblait fort touchant à voir aussi, également sur Netflix.
C'est tout, Mélina?
C'est tout, Jim et Louis. Voilà ce qui se passe sur Netflix cette semaine.
Merci à vous deux. C'est déjà la fin de Cinébrunch. Si vous l'ignoriez ou si vous ne vous en souveniez pas, sachez que vous pouvez humblement réécouter cette émission et les précédentes sur notre site internet cinébrunch.com ou en balado-diffusion sur iTunes. N'est-ce pas, Louis?
Oui, on peut aussi aller critiquer notre animateur sur Facebook. Faites-le en grand nombre.
Et vous trouverez aussi sur le site web des bandes-annonces des films qu'on a abordés durant l'émission et quelques notions cinématographiques en prime. C'est la fin de l'émission. N'oubliez pas le changement d'heure cette nuit. On se retrouve samedi prochain, une heure plus tard, mais toujours à 11h, pour une autre édition de Cinébrunch. On va parler des films de guerre. Bye bye tout le monde.
Bye.
Bonne semaine.